En ce jour de fête de Pentecôte, je voudrais vous convier, frères et sœurs, chers amis, à un petit voyage dans l'Ancien Testament. Car ce voyage va nous permettre de comprendre la portée et la grandeur de cette fête. Cette fête n'est d'abord pas une fête chrétienne, elle existe chez les Juifs. On l'appelle la fête de Shavuot. 50 jours après la fête de Pâques, qu'on appelle Pessah. À Shavuot, nos frères, nos pères, dans la foi juive, célèbrent Moïse qui a reçu sur le mont Sinaï les tables de la loi, les saintes écritures transmises par Dieu lui-même, et en particulier les 10 paroles de vie, les 10 commandements qui peuvent structurer toute vie sociale, toute vie religieuse. Le livre de l'Exode au chapitre 24 qui relate ces événements nous dit que Moïse ne reçut pas seulement des paroles écrites, mais aussi des paroles orales, et ces paroles orales accompagnent les écrits. L'Église a reçu et a interprété cela comme ce que nous appelons la tradition. C'est ce qui nous fait affirmer que l'on ne peut pas se fier uniquement aux Saintes Écritures et que l'interprétation stricte, de référence uniquement à ce qui est écrit, à ce qui est dans la Bible, n'est pas suffisant. Car la révélation de Dieu ne s'arrête pas uniquement à ce qui est écrit, mais il transmet aussi des paroles déjà des Moïse à ceux qu'il choisit pour guider son peuple. Mais la fête de Pentecôte nous apprend que ce n'est pas seulement à une sorte d'élite, entre guillemets, que cela est réservé, mais que chaque chrétien, chaque baptisé, reçoit lui-même pleinement l'Esprit Saint au jour de son baptême et de sa confirmation. Et s'il se met à l'écoute de l'Esprit de vérité, il peut lui aussi transmettre à son tour dans sa vie quotidienne les vraies paroles de Dieu. Il peut véritablement entendre Dieu qui lui parle à lui, mais aussi à ses proches. Le mont Sinaï, sur lequel Moïse a reçu les 10 paroles de vie, est une montagne sacrée, très importante dans la Bible, que l'on retrouve à plusieurs reprises. Cette montagne a deux noms. On l'appelle parfois mont Sinaï, mais dans d'autres livres, on l'appelle le mont Horeb. Et c'est sur ce mont que le prophète Élie a vécu une des plus grandes expériences spirituelles qui soit, une expérience essentielle, une expérience de conversion de ce qu'est Dieu, de qui est Dieu. Élie, le prophète qui était animé d'un amour jaloux, ardent pour Dieu, et qui confondait cet amour avec parfois des excès de violence pour défendre la cause de Dieu, la plus belle qui soit. Élie avait succombé, si je puis dire, à un accès de violence, de colère, en faisant supprimer par le fer, le glaive, 400 prophètes, 400 prêtres du dieu Baal, dans une sorte de combat Dieu contre Dieu. Qui est le vrai Dieu, Baal ou le Seigneur ? Et ayant gagné, ayant triomphé contre ces prêtres de Baal, Élie les fait exterminer. Mais Élie, à ce moment-là, est poursuivi par la vengeance de la reine Jézabel, qui était une grande adepte de ce dieu Baal. Et Élie, qui s'est montré extrêmement fort, devient tout d'un coup extrêmement faible et peureux. Et Élie s'enfuit devant cette femme. Il va se réfugier dans le désert où il va être guetté par une profonde dépression. Et dans cette crise intérieure, psychologique, spirituelle, Élie va vraiment avoir envie de mourir. Car il fait une expérience essentielle, une expérience humiliante. Je ne vaux pas mieux que mes pères. Ce que je reprochais aux générations précédentes, ce que comme jeune je peux reprocher aux boomers, ce que comme enfant je peux reprocher dans l'éducation de mes parents, je me rends compte que je ne vaux pas mieux qu'eux. Et cette déprime profonde, cet abandon de Dieu qu'il ressent, Élie va le surpasser grâce à l'aide d'un ange, d'un messager qui va le conduire au mont Horeb en lui disant « C'est là-bas que Dieu t'a donné rendez-vous. » Élie arrive donc sur le mont Horeb. Et là, il peut repenser à ce qui s'était passé sur cette montagne, quand Dieu avait donné les tables de la loi à Moïse. Le livre de l'Exode avait décrit cela dans un langage absolument impressionnant. Feu, tonnerre, tremblement de terre, vent violent. Tout le cosmos semblait être ébranlé par la présence de Dieu. Et voilà qu'Élie va entendre tour à tour le vent violent, l'orage, le tremblement de terre. Mais à chaque fois, Dieu n'était pas dans le vent, dans le tremblement de terre, dans le feu. Et tout d'un coup, vint le fin bruissement d'une brise légère. Alors Élie se couvre le visage et va rencontrer Dieu. La conversion spirituelle à laquelle nous sommes appelés, qui vaut pour tous les temps, c'est que Dieu ne se trouve pas dans le bruit. Dieu ne se trouve pas dans le bruit. Parce que le bien ne fait pas de bruit. Le mal en fait beaucoup. Et nos ondes de radio, nos écrans, nos réseaux sociaux, nos écrans de télévision en sont remplis. Mais le bien ne fait pas de bruit. Et Dieu est dans le bien. C'est avec tout cet arrière-fond que nous pouvons entrer dans la fête de Pentecôte. Et je rajouterai même un autre élément de l'Ancien Testament, un élément essentiel, le récit de la tour de Babel. Au chapitre 11 de la Genèse, on nous raconte cette quatrième facette du péché des origines, une facette combien actuelle. Des hommes arrivent dans une plaine, et là, ils s'y installent. Et puis ils trouvent de la terre propice à faire des briques. Alors ils se disent, faisons des briques. Et puis ensuite ils se disent, avec ces briques, faisons une tour. Faisons une tour qui monte jusqu'au ciel. Et faisons-nous un nom pour que nous ne soyons pas dispersés, que nous restions unis et que nous puissions bâtir un projet humain qui nous fédère tous. Et voilà que Dieu descend. Dieu descend du haut du ciel et voit ce projet qui n'est pas le projet de Dieu sur l'humanité. Car ce projet vise à supprimer toute différence. Il vise à faire de l'humanité une seule et même entité. Il vise à supprimer toutes les différences culturelles, linguistique. Il vise à faire de l'homme Dieu lui-même. C'est ce que la Bible veut exprimer avec cette petite expression « faisons-nous un nom ». Le seul qui peut se faire un nom, c'est Dieu lui-même. Alors Dieu intervient et met la confusion dans leur langage et il les disperse à la surface de la terre. Avez-vous été attentifs, frères et sœurs, au fait que ce mot « confusion » se retrouve aujourd'hui dans la première lecture ? Parce que la Pentecôte, c'est l'anti-Babel. La Pentecôte, ce n'est pas l'humanité qui veut devenir un uniforme. La Pentecôte, c'est l'Esprit-Saint qui nous envoie chacun rencontrer l'autre différent. Apprendre le langage de l'autre. La Pentecôte, c'est l'Esprit qui nous pousse à sortir de nous-mêmes pour aller à la rencontre, pour parler des merveilles de Dieu. De façon à être compris par l'autre. C'est cela qui compte. Combien de fois, trop souvent, quand nous parlons, nous nous complaisons dans notre langage, et ça peut m'arriver à moi le premier, hein, dans notre propre langage, dans notre propre logique, dans notre propre raisonnement, et nous ne cherchons pas d'abord à ce que l'autre comprenne ce que nous voulons dire. Eh bien, quand cette fête de Pentecôte, l'Esprit Saint nous inspire chacun de nous pour que nous puissions dire les merveilles de Dieu dans la langue de l'autre, que ce soit mon mari, ma femme, mes enfants, mes amis. Amen.